Yo fui profesora de Gabriel Pasternak en la escuela número 7 del Palomar. No.
Would you mind fastening my straps in the back?
Oh, sure.
No! Not tonight, you say me!
Je connais assez bien le...
Vous connaissez assez bien, vous ne le connaissez pas parfaitement, mais vous le connaissez assez bien.
Oui,
je... Yes!
Êtes-vous seul lorsque vos lèvres ont agressé cet innocent otage?
She's been murdered. And you think I did it?
Bonjour, ou plutôt rebonjour à tous et bienvenue dans ce numéro en direct et en public de votre émission de cinéma sur Transistor, d'étoiles plein les yeux. Les yeux, ce sont ceux de Marie et de Céline qui sont à mes côtés aujourd'hui. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et c'est le film Les Ogres de Léa Fener qui anime notre toile de ses couleurs chatoyantes. Rarement un titre a aussi bien résumé 2h30 de film Les Ogres, tout y est. Cette ribambelle de personnages hauts en couleurs qui composent la troupe du théâtre itinérant d'Avaï, que l'on suit tout au long du film, leur appétit monstrueux, appétit de tout, leur bouche grande ouverte pour rire et pour crier, la durée du film aussi qui s'installe sans ménagement. Et au milieu de cette grande famille bariolée qui sillonne le sud de la France au son des klaxons et de l'accordéon, deux couples servent de fil directeur, François qui dirige la troupe et sa femme Marion, qu'une vie d'agitation et de petites aigreurs quotidiennes ont peu à peu éloigné et qui se retrouve face au retour dans la troupe de l'ancienne amante de François. Et puis Mona et son compagnon, Monsieur Déloyal, elle, jeune, attend un enfant, lui, complètement usé, ne s'est jamais remis de la perte d'un premier fils. Je ne raconte pas tout de suite et vous laisse la parole, Céline et Marie. Qu'avez-vous pensé de ce film ?
Alors, moi, j'ai bien aimé, sachant que pourtant, dans un premier temps, je faisais un peu la gueule quand tu m'as annoncé tu vas aller voir un film de 2h30. Mais je suis ressortie très convaincue.
Alors, moi aussi, j'ai bien aimé ce film. J'aurais quand même quelques réserves, notamment à cause de cette justement longueur, de cette exubérance, de ce trop-plein qui fait quand même partie de l'identité du film. J'ai eu l'impression de ne pas avoir assez de respiration pour moi aussi en regardant ce film.
Mais alors justement, c'est justement ce qui moi m'a particulièrement plu dans ce film, c'est que c'est vraiment une véritable bourrasque. On prend ça pendant 2h30 et la réalisatrice réussit à ne pas donner de véritable pause dans le rythme. Et réussit, ce qui est quand même un exploit en 2h30, à laisser la vivacité de ce film, à le rendre vivant du début à la fin. Et puis il y a cette sensation que j'avais plus depuis très longtemps en sortant d'un cinéma, juste de me sentir bien après un film. Et oui. C'est vraiment un film qui fait du bien.
Oui, je suis assez d'accord. Il y a cette fluidité qui fait qu'on est dans un monde, une troupe itinérante, mais on passe très très facilement et sans aucun temps mort, et c'est peut-être ce que tu reprochais Céline, de la scène aux coulisses à la vraie vie, et tout ça est extrêmement dynamique. C'est un peu une grande farandole. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film aussi, c'est que l'énergie que ça donne, ça vient aussi peut-être du fait que en tant que spectateur, on a un peu l'impression d'être confronté à une espèce d'altérité absolue, c'est-à-dire qu'on n'est pas les gens qui sont à l'écran, clairement pas en général. On est sédentaires, ils sont nomades, on a une existence un peu bourgeoise et rangée, ils sont tout le temps en train de s'engueuler et vivre une existence aussi passionnée, peut-être que ça nous fatiguerait, nous, dans la vraie vie. Ils sont beaucoup plus extravagants que nous. Ils ont une logique un peu de clan. Voilà, c'est la grande famille, mais pas forcément sur des liens du sang. C'est la troupe, la grande construction un peu clanique comme ça, quand nous, on a une existence un peu plus rangée dans nos familles nucléaires. Et il y a tellement de vie dans ce film que ça se déverse sur nous en tant que spectateurs, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement agréable.
Oui.
Je reviendrai par contre sur ton utilisation du mot fluidité. J'ai pas trouvé ça vraiment fluide. Dynamique, oui, parce qu'on est tout le temps dans des moments d'hystérie, enfin, constamment. Hein. Vous avez parlé d'énergie, mais je dirais juste comme hystérie, vraiment. Et je trouve qu'à un moment, ça devient saoulant, clairement. Enfin, saoulant au sens d'épuisement peut-être des acteurs, d'épuisement aussi du spectateur qui est là, qui, d'accord, se laisse emporter, mais j'ai trouvé ça, au bout d'un moment, assez dur à suivre. Il n'y avait absolument aucun temps mort, et ça peut être évidemment une force, mais sur 2h30 de film, je comprends qu'elle a besoin de cette énergie-là, peut-être pour porter le film, mais peut-être que travailler sur les temps morts, travailler sur quelque chose peut-être d'un peu plus pudique, j'aurais peut-être plus apprécié ça que l'exubérance constante.
Mais c'est peut-être le rôle qu'a dans le film, justement, le temps mort qui intervient après 2 heures de film, mais qui est quand même d'une importance capitale, parce que l'un des personnages qui porte le film, donc ce monsieur déloyal, qui est suicidaire, qui à un moment, c'est une scène qui représente bien ce personnage, c'est-à-dire qu'à un moment il va se suicider, puis d'un coup... Et ben il arrête et puis il va sur scène, et la première réplique qu'il dit, c'est « je suis heureux ».
Voilà, en passant de cette tête complètement déconfite qu'il a, un voilà. sourire tout d'un coup parce qu'il est sur scène.
Et c'est peut-être là qu'il y a aussi cette fluidité dans ce mouvement sans arrêt des émotions, de la joie la plus totale à une colère. Il y a quand même une ou deux scènes de colère qui sont très très longues et très très dures. Et
plutôt assez bien vu, je trouve, parce que la scène par exemple où l'une des filles de la troupe, qui est la fille du chef François, donc Inès, qui s'engueule avec son père et qui quitte le théâtre, c'est une scène que j'ai trouvée très forte, parce que on sent toute cette colère qui est en elle, avec une forme de voilà, elle finit par devenir irrationnelle, c'est-à-dire que les propos qu'elle tient deviennent plus ou moins incohérent et tout. C'est quelque chose dans lequel je me suis reconnue. Ça m'est arrivé parfois de m'énerver comme ça et de finir par dire n'importe quoi. Et c'était extrêmement fort comme scène, j'ai trouvé.
Il y a une vraie justesse dans le traitement des personnages, je trouve, qui pour le coup, eux ne sont pas exagérés, en fait, dans la façon dont on les filme. Après, leur comportement est exagéré, mais il leur appartient et eux-mêmes sont bien rendus de ce point de vue-là.
Je crois que d'ailleurs que Léa Fener a une relation un peu particulière aux comédiens qu'elle filme. Ben, je crois qu'il s'agit de son père.
Ben, il s'agit de son père, de sa mère et de sa sœur.
Effectivement.
Et du spectacle que son père montait il y a quelques années.
Non, mais on sent cette authenticité. Oui. En revanche, je trouve vraiment que justement, il y a peut-être ce problème de distance par rapport à ces personnes qu'elle filme. Est-ce que elle-même a assez de distance dans la manière dont elle filme.
Mais je pense que le but est justement de supprimer toute distance. D'ailleurs, ça se voit dans les procédés formels aussi. Mm-hmm. Par exemple, la caméra est systématiquement en mouvement dans le sens de la course des spectateurs, acteurs. Jamais on va à la rencontre des acteurs, mais on tourne avec eux autour de la scène.
Oui, c'est ça, on les suit, on est en mouvement.
Il y a cette musique qui rythme leurs gestes en même temps qu'elle rythme le film. Cet univers d'enfance partout dans le jeu de ces acteurs qui retombe complètement en enfance, et le but est vraiment quelque part de nous plonger dans son enfance à elle aussi, à la réalisatrice.
Oui, c'est ça, avec tous ces enfants aussi qui sont là, ça grouille de vie un peu partout. Après, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un traitement un peu inégal entre les personnages. J'ai trouvé les personnages féminins plus intéressants, plus creusés aussi, peut-être plus mis à nu, et pas seulement au sens propre, dans le film. Au contraire de personnages masculins, peut-être un peu plus déterminés par un trait de caractère. François, le chef de troupe, est très égocentrique et autoritaire. Monsieur Déloyal est dépressif. Etc. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ça, comparé à trois personnages féminins comme Mona, Marion et Inès. Mais
c'est vrai que alors le film est fait par une femme aussi, et on sent d'ailleurs qu'il y a eu un traitement très très fin de la place de la femme dans ce film. Le personnage de la mère, entre autres, qui est tour à tour complètement rabaissé et vraiment superbe à certains moments. Et le traitement de la femme est très creusé. C'est vrai que le traitement des personnages masculins est un tout petit peu plus superficiel de ce point de vue-là.
J'ajouterais que j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont jouait Adèle Haenel, qui est très silencieuse dans le film, qui n'a pas énormément de répliques, mais tout passe vraiment par son visage, par la manière dont elle regarde Monsieur Déloyal, etc., parce que c'est elle qui joue.
Ouais, avec ses grands yeux.
Et il faut vraiment souligner son rôle.
Oui, ça fait quelque temps qu'on la voit dans les salles, et c'est vrai qu'à chaque fois, elle est vraiment resplendissante, et dans ce film, c'est vraiment assez impressionnant.
Mais pour revenir peut-être sur les personnages, moi ce que j'ai trouvé peut-être un peu dommage, c'est que des personnages comme les enfants ou les autres comédiens de troupe ne soient pas non plus assez creusés. Sur 2h30 de film, je trouve qu'on suit beaucoup certains couples.
Mais d'un autre côté, il y a tellement de personnages, il y a une telle profusion de personnages, déjà se concentrer sur 4 d'entre eux, en gros.
Déjà retenir leur prénom, hein, je tiens à le signaler.
Oui, voilà, c'est... Et réussir à bien répartir le temps entre ces quatre personnages, parce que tout tourne quand même autour de ces deux couples centraux. Ça prend déjà du temps.
Bien sûr.
Alors, autre chose, c'est ce microcosme qui est montré là, oui, d'une certaine façon, il nous renvoie à nous-mêmes aussi, parce que cette façon d'enfermer ce film dans ce petit microcosme qui est itinérant, mais qui finalement est très fermé sur lui-même.
Oui, avec beaucoup la logique visuelle du cercle, les caravanes sont disposées en cercle.
Les cercles et les mouvements de caméra circulaires, voilà. Systématiquement. quelque part, ça, oui, voilà, ça nous renvoie aussi une image de nous-mêmes dépouillés de tout monde extérieur, de caractères qui sont juste entre eux et qui interagissent, et de tout ce qui peut donner de cette mise en relation de ces différentes individualités.
Un genre de petite société qui est voilà, l'observatoire d'une petite société, et en même temps une société un peu... exacerbée par rapport à la nôtre, quoi, au sens où les passions, tout est plus vif, les colères sont plus vives, les passions, les amours, tout est beaucoup plus vif.
Sans qu'ils soient traités avec une quelconque complaisance, en fait. Parce que finalement, on reste assez neutre sur eux. Le père est tour à tour complètement détestable. Et puis finalement, il fait pitié à certains moments. On le plaint aussi.
Je trouve qu'on a quand même... je les ai pas totalement détestés, ces personnages. Bien sûr, ils sont exécrables, déloyales et... Enfin, je veux dire, est très cruel et parfois incompréhensible, et il est dépressif et il fait des choses qu'on comprend pas. Mais en même temps, je trouve qu'elle a tendance à céder un peu à... Enfin, en tout cas, elle poétise sans cesse ce qu'elle voit. Est-ce que ce serait pas une manière, là encore... Enfin, je veux dire, on parle d'ogre, mais je les ai pas trouvés si déplaisants que ça. Et toutes les subversions qu'on peut avoir, c'est pas non plus dans le film de... si transgressif que ça.
Non, surtout l'aspect peut-être un peu consensuel de la fin, où voilà... Tout ce film.
Mais alors justement, cette fin, finalement, moi je la vois comme un dernier artifice qui justement qui remet tout en place, qui remet tout exactement à zéro, et c'est aussi une façon de refaire boucler une dernière fois ce film sur lui-même, comme pour dire que finalement toutes ces petites choses-là n'ont finalement pas une grande importance. C'est le côté parfaitement artificiel et pour moi assez voulu.
Oh, je suis un peu sceptique là-dessus, même si je trouve que cette fin un peu consensuelle, alors qu'à l'inverse, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que le personnage d'Inès, qui donc quitte le film à un moment, elle quitte la troupe, ne revienne jamais dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça bien, ça évite un peu le côté happy end, tout le monde revient à la fin, super facile. Voilà, c'était assez agréable comme idée de voir porter ça à l'écran.
D'accord. Et sur un film qui veut être justement sans complaisance et sur ses personnages, etc., je regrette aussi également un petit peu la fin, qui me paraît un peu tirée par les cheveux quand même. Mais c'est quand même un film qui donne beaucoup d'énergie quand on sort de là.
Alors on le conseille quand même à nos auditeurs.
Oui, pour la lumière et la photographie aussi.
Oui, aussi, qu'on n'a pas forcément eu le temps de traiter. Et la musique, en effet. Ouais. Donc il est temps de passer en revue l'actualité cinématographique maintenant. Je commence avec Keeper de Guillaume Senet, qui se penche sur deux jeunes adolescents, Maxime et Mélanie, et sur leur sexualité naissante. Lorsque Mélanie tombe enceinte et qu'ils décident d'assumer cette paternité et de garder l'enfant, ils se heurtent à l'incompréhension de tout leur entourage. Le sujet semble casse-gueule, annonce Télérama, mais le film évite les clichés et fait preuve d'une maturité étonnante. Un beau documentaire ensuite à voir toute la semaine sur la toile du Comédia, East Punk Memories. La réalisatrice Lucille Chauffour se penche sur ces punks qui, il y a quelques décennies, criaient leur rage contre un système communiste au bord de l'effondrement. Et maintenant, semble demander la caméra. 25 ans plus tard, comment vivent-ils la crise actuelle? Nationalisme, anarchisme, rébellion, lassitude, le présent est trouble, marqué par les aigreurs d'un grand désenchantement. Je continue avec « Soleil de plomb » du croate Dalibor Matanić. « Trois décennies, deux nations, un amour » annonce la très belle bande-annonce, mais ne vous y trompez pas, il n'est pas question de sentiments exaltés et de bonheur champêtre, et parler de ce qui rapproche permet de mieux montrer ce qui sépare en filmant trois histoires d'amour à trois époques différentes, à la frontière entre la Croatie et la Serbie. Le réalisateur met à nu des plaies encore douloureuses. Et puis... je termine avec un monument, une merveille. Ce dimanche, à 16h45, l'Institut Lumière projette « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone. Alors, comment vous dire à quel point c'est grandiose? C'est une fresque phénoménale, c'est époustouflant. Robert De Niro est au sommet de son art, Ennio Morricone signe l'une de ses bandes originales les plus poignantes. C'est un film de gangster, c'est un film d'amour, c'est un film social, c'est un film sur New York, et c'est surtout un chef-d'œuvre. Si je vous parle de cinéma dans ce micro aujourd'hui, c'est sans doute grâce à ce film, à Noodles, à Déborah, à cette flûte de Pan et à ces 4h10 de cinéma, avec entr'acte quand même, et qui ont été une véritable révélation pour moi il y a quelques années, si avec ça vous n'allez pas le voir. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Marie et Céline, ainsi qu'à Manu à la régie. La prochaine fois, Midnight Special de Jeff Nichols. D'ici là, bonne semaine à vous dans les salles obscures.
Eh bien, je crois que je vais prendre mon ticket. Et une soudaine envie de pop-corn m'envahit, même si Rémi, je sais qu'il est contre le pop-corn, ne vous en déplaise.